On va essayer d'être dans les temps. Et toujours cette difficulté de dire, bon, Seigneur, c'est quoi le pain d'aujourd'hui? Et je pense, Manuel a donné quelques pistes, mais pour cette année, je reçois, c'est pas exhaustif, mais l'Épître aux Éphésiens. Et l'Épître aux Éphésiens, c'est en particulier le chapitre 1, mais les autres aussi, je pense qu'il y a une ligne de conduite pour nous, en tant qu'Église, à voir. Alors je rappelle la déclaration de mission qui était projetée encore. Une famille, c'est pour ça que nous avons le temps, merci Seigneur, d'avoir prendre le temps de pouvoir envoyer, prier pour chacun, etc. C'est un privilège. Parfois, bon, ben, si on grandit trop, on peut pas trop tout faire. Mais là, on peut le faire. Alors, on est une famille qui célèbre la présence de Dieu. Célébrer, c'est pas seulement la louange, l'adoration, c'est aussi manifeste son amour, incarne son royaume. Et ce que je trouve étonnant, c'est que le mot célébrer, on le trouve justement plein de reprises dans l'Épître aux Éphésiens, en particulier au chapitre 1. Donc dans la Bible, on le retrouve aussi, mais surtout dans Éphésiens. Alors qu'est-ce que c'est célébrer? On est une famille qui célèbre, mais ça veut dire quoi? De quoi se nourrit cette célébration, hein? À quoi conduit-elle? Et autant de questions auxquelles on veut donner quelques réponses ce matin. Et ce qui est merveilleux, vous savez, en particulier le chapitre 1 qu'on va lire, c'est une seule phrase. En grec, c'est une seule phrase, du verset 3 au 14, une seule phrase. Il faut prendre son souffle. Mais tout ça pour nous montrer, c'est une exclamation de louange. En fait, c'est une grande phrase de louange. Hein, une grande phrase de louange qui manifeste à la louange de Dieu pour son œuvre de salut et tous les dons qu'il nous a donnés. Et tout ça, ça produit la célébration. Alors lisons-le, je prends dans la version Semeur. Voilà, alors vous allez voir, c'est une adoration étonnante. C'est une adoration pour le Père, c'est une adoration pour le Fils, c'est une adoration pour l'Esprit, c'est une louange à la Trinité. Et ça, c'est une louange bien complète. C'est-à-dire, c'est un bel exemple de louange. Salutations. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, salue ceux qui sont à Éphèse, appartiennent à Dieu, et qui alors appartiennent à Dieu au sein, il y a d'autres traductions qui disent au sein, qui sont au Seigneur, hein, qui croient en Jésus-Christ, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de bénédictions de l'Esprit, dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints, sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés, nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Et voilà que, dans sa volonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son Fils bien-aimé. Ça, c'est le premier célébré. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés, nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce en toute sa richesse, et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, pour que nous connaissions le secret de son plan. D'autres traductions parlent de mystère. Hein. Ce plan, il l'a fixé d'avance, dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Et selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et on continue. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Encore une couche, hein. Destiné d'avance à célébrer sa gloire. Nous qui les tout premiers avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apporte le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru, que vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet Esprit qui constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis, ainsi tout aboutit à célébrer sa gloire. Non, plusieurs célébrer sa gloire, la notion d'héritage qui est dedans, la notion de reine, la notion du ciel qui descend sur la terre. Il y a ici vraiment, je retrouve la mission qui est la nôtre, en tant qu'église générale, mais qu'église locale aussi. Et chaque livre de la Bible, si vous voulez, il y a son thème. Et là, par exemple, vous prenez la Genèse, c'est le thème du commencement. Vous prenez Marc, c'est le thème de la royauté. Vous prenez Éphésiens, c'est le thème des richesses de Dieu. Toutes ces richesses qui sont là. Il nous a donné toutes ces richesses. Et vouloir les partager, c'est important. Il y a un dessin humoristique que je n'ai pas retrouvé, Mais j'ai pensé à Carlo, mais avec son mariage à préparer, je n'ai pas donné de travail. Mais si un jour tu as le temps de faire ce dessin, j'explique. C'est un notaire. C'est un notaire. Et il est devant des héritiers extrêmement cupides. Ils attendent qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner. Tu sais. Le papy est mort, voilà, ça va être super. Et le notaire, il commence comme ça. Il dit, et il lit le texte du défunt, le testament. Et il dit, moi, John Jones, alors t'imagines les yeux des gens, qu'est-ce que je vais recevoir, tiens, hein. Saint de corps et d'esprit, j'ai tout dépensé. Imagine la tête, l'atmosphère change, voilà. Et voilà, et ben avec Jésus, c'est le contraire. Avec Jésus, c'est le contraire. C'est moi, Jésus, eh bien, j'ai tout payé. J'ai tout payé. J'ai tout payé pour toi. Et là, ça nourrit la célébration, vous comprenez? Ça nourrit. On comprend, hein? On comprend. Et il nous a permis de partager toutes ces richesses, d'abord spirituelles. Au lieu de tout dépenser, il paye tout. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle, ça, en fait. Il a tout payé. Alors, c'est pour ça que nous célébrons. Donc, plus nous avons la conscience de ce qu'il a tout payé, plus on célèbre. Et il n'y a aucune circonstance qui peut nous embêter. Alors, vous avez les bénédictions du Père, les bénédictions du Fils, les bénédictions de l'Esprit. Et c'est les bénédictions de la famille de Trinité qui sont là dans Éphésiens. Donc, il nous a élus. Alors, ça, c'est merveilleux. La doctrine de l'élection, mes amis, ça c'est quelque chose. Hein. Il nous a élus. Il y a un professeur qui disait ceci, écoutez bien, essayez d'expliquer l'élection et vous risquez d'y perdre la tête. Mais essayez de vous en passer et vous pouvez y perdre votre âme. Alors ça pourquoi? Parce que le salut débute avec Dieu et non pas avec l'homme. La Bible dit, Jésus a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et ici dans l'Éphésiens, il est dit, avant la fondation du monde même, il nous a choisi. Le pécheur est perdu, mais s'il est livré à lui-même, il ne cherche pas Dieu. C'est Dieu qui met en lui le désir de le chercher. Et Dieu, dans son amour, cherche le pécheur, l'attire à lui. Voilà. Et tout l'univers, on voit que Dieu nous a choisi avant même de créer l'univers. C'est le salut en Jésus-Christ, c'est pas le péché vient de le monde et puis Dieu tout d'un coup dit « Oh mince, ça tourne pas rond, il faut faire un truc. » Plan B, le salut, tiens, Jésus, envoie Jésus. Mais la Bible dit « Avant que le monde soit né, il y avait déjà le plan du salut. » Avant, Dieu n'est pas surpris. Dieu est souverain, il règne, ça c'est absolument étonnant. Il nous a choisis en Christ, c'est un immense privilège. Une immense responsabilité. Donc, est-ce qu'on répond par « Merci Seigneur, mais quelle grâce tu nous as choisis, quelle grâce tu nous as élus ?» Et en fait, ce privilège de l'élection, on ne le comprend pas, parce qu'en même temps, on est appelé à toucher notre environnement, à pas s'attendre à ce que Dieu a choisi, donc je ne fais rien. En fait, il y a à la fois la responsabilité, et à la fois, cette doctrine de l'élection, c'est un mystère, ça restera longtemps, il ne faut pas essayer de régler le problème, mais la Bible, elle dit les deux. Alors, c'est ça qui est important. Ensuite, il nous a adoptés. L'adoption. Alors, l'adoption, c'est pas seulement pour qu'on puisse jouir, et c'est déjà important, du Père. On était sans famille. Et Dieu nous dit, voilà, je t'ai donné une famille, je suis ton père. Ça me rappelle, hein. Voilà, je suis ton père. Voilà. Mais ce père qui est Dieu, il est là pour l'adoption, elle est là pour faire de nous donc des fils. Et pourquoi faire des fils et des filles que vous êtes? C'est parce que Dieu, il a prévu l'héritage. L'héritage avec nous. Et l'héritage, il a dit, vous êtes des co-héritiers. Ça veut dire que Dieu... C'est limité, il ne veut pas hériter tout seul. Et il a dit, mais moi je veux, j'hérite, je demande mon héritage, mais pas pour moi tout seul, avec tous mes enfants. Et l'héritage, c'est le cosmos, c'est la terre. Donc il a fait de nous des fils, et il ne faut pas rester des enfants. Parfois on peut rester toute sa vie des enfants, mais Dieu dit, mais c'est que les fils et les filles qui héritent. Et donc la vie chrétienne, c'est ce merveilleux passage de l'enfance, je suis adopté, je suis aimé, c'est merveilleux, ça gravite un peu autour de nous, hein, les enfants c'est son jouet, c'est sa chambre, c'est ses trucs, c'est à lui, il veut son papa, il veut sa maman, voilà. Mais il y a un moment, il grandit et te dit, maintenant tu sors de la maison et tu vas toucher ce monde, et ça c'est être fils, et on rentre dans l'héritage et dans les dons que Dieu nous a donnés. Donc ça c'est l'aspect extraordinaire de l'adoption, Et puis, il nous a accordé sa grâce. Et la grâce de Dieu, c'est, on ne va pas le développer, mais on est accepté de Dieu. Et cette grâce de Dieu, il n'y a aucune condamnation. Moi, j'aime beaucoup cette parole de Paul lorsqu'il parle d'un de ses fils, justement, un de ses enfants spirituels, qu'il envoie. Et il est dit, voilà, Philémon, hein, si tu as fait quelque tort, si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Reçois-le comme moi-même. C'est Paul qui parle. Reçois. C'est mon fils comme moi-même, mets-le sur mon compte. Ça, c'est le cœur de Dieu. Mets sur mon compte. Il a mis sur son compte toutes nos erreurs, nos déceptions, nos égarements. Et donc, ça, c'est le cœur de Jésus. Ayons ce cœur. Et quand cette grâce, c'est Paul qui parle aux Éphésiens. Il y avait des tas de problèmes à Éphèse. Il y avait des tas de problèmes. Il y avait des gens rebelles, il y avait des tordus. Mais il dit aux saints qui sont à Éphèse. Quelle vision de Dieu! Dieu nous voit au travers de son sacrifice. Il nous voit saints. Ton voisin, il est saint. Est-ce que tu savais ça? Ta voisine, elle est sainte. Et je rappelle ce qu'on répète souvent. Nous ne sommes plus des pécheurs. On me dit, quelle hérésie. Mais non, nous sommes des saints qui péchons parfois. C'est pas pareil. Et l'identité a changé. Donc, nous avons affaire à des saints. Et parfois, soi-disant sous prétexte de discernement, on ne voit plus les saints dans l'Église. On voit les pécheurs, on voit les rebelles. Quand on a cette vision qui est là, ce n'est plus la vision de Dieu. Et on ne peut plus agir, on n'a plus d'autorité quelconque pour enseigner quoi que ce soit. Parce qu'on ne voit pas comme Dieu voit. Et Dieu, quand il nous regarde, malgré nos faiblesses, nos errements, il nous voit saints, parce qu'on est revêtus. Et ça, c'est le mystère de la grâce. C'est un scandale, cette grâce. Mais c'est scandaleux, cette grâce. On ne l'a pas méritée. Et aujourd'hui encore, peut-être t'as erré cet été, mais Dieu te dit, je t'ai gracié. Tu es mon fils bien-aimé. Et cette grâce, elle est sur toi. Donc, aux saints qui sont à Éphèse, la traduction originale, c'est aux saints qui sont à Gabilaire. Ça, c'est, voilà. Mais ça, on a traduit, c'est semeur, c'est pas fait exprès. Bénédiction de Dieu, le Fils. Et Dieu le Fils, c'est, on continue dans le texte, hein, c'est verset 7 par exemple, il nous a rachetés, donc payé un grand prix. J'aime beaucoup cette parabole du marchand qui voit une perle et qui vend tout ce qu'il a pour acheter la perle. Jésus, il a vu une perle en toi, il a vu une perle en nous, bien avant qu'on soit chrétien. Et il a vu cette perle, il a dit, mais moi je vends tout, je me donne pour acheter cette perle. Et les parents qui démarraient cette rentrée pour vos enfants cette année, ben peut-être il y a des défis, je pense aux parents qui inscrivent leurs enfants dans les écoles chrétiennes, il faut payer des scolarités, il y a des transports, il y a tout ça. Je pense aux enseignants qui vont démarrer bientôt, on a un peu peur, il y a du travail, il y a des défis. Mais Dieu nous rappelle, est-ce que tu as vu la perle qui est en chaque enfant? Et si tu as vu cette perle, alors il n'y a aucun sacrifice, parce que tu peux tout vendre, parce que tu es gagnant même. Parce que tu as vu une perle. Sans vision, on n'est pas prêt à se donner. On n'est pas prêt à vendre, à payer un prix. Mais quand on a vu un enfant, je pense au bercail, aussi aux enfants du bercail, quand on a vu une perle, alors là, eh bien, on sait qu'on peut, on lâche les choses. Il n'y a aucun sacrifice qui puisse acheter cette perle. Mais on est gagnant en trouvant cette perle. Et puis, il nous a pardonné. Ça veut dire enlever, emporter. Et ça veut dire surtout aucune accusation. C'est pour ça que Dieu nous dit, ne vous accusez pas les uns les autres. C'est facile de voir les manquements chez les autres, mais Jésus lui-même ne nous accuse plus. Donc comment est-ce qu'on peut accuser? Et donc, une famille, c'est un lieu, alors parfois on apprend, parfois on tombe un peu là-dedans, mais il faut sortir de la condamnation, de l'accusation, et parfois, quelque chose de plus subtil, de l'auto-condamnation et de l'auto-accusation. Et souvent, je pense que c'est souvent dû parfois au niveau des enseignants. Souvent, il y a des exigences qu'on se donne à soi-même et aux autres. Et on tombe vite dans la déception. Mais Dieu nous dit, voilà, la déception, c'est un ennemi. Il n'y a aucune accusation, aucune condamnation pour toi. Le matin, quand on se lève, il n'y a aucune condamnation pour chacun de nous. Donc voilà, il nous a révélé la volonté de Dieu pour nous, chapitre 1, versets 8 à 10. Et le mystère, alors le mystère, c'est pas, nous quand c'est mystère, c'est-à-dire qu'on ne peut rien comprendre. Mais dans la Bible, le mot mystère, c'est pas seulement ça, c'est le mystère, c'est quelque chose qui était caché autrefois, mais qui est maintenant révélé par le Saint-Esprit. Il y a des tas de mystères. Jésus est venu, il a révélé la volonté de Dieu. Et Éphésiens 1 nous dit, voilà, le mystère, c'est quoi? C'est quoi le mystère de Dieu, le mystère de Jésus? Eh bien, c'est qu'il veut tout réconcilier, le ciel avec la terre. C'est pour ça qu'en tant que peuple de Dieu, notre espérance, elle n'est pas seulement dans le ciel, ou alors elle est plutôt dans un ciel qui descend sur la terre. C'est toute la dynamique de l'Église. La dynamique de l'Église ne met pas son espérance dans le ciel seulement, elle met son espérance dans un ciel qui descend. Le ciel, c'est pas un ciel qui est en dehors de la terre, c'est un ciel qui vient sur la terre. Et le cri de l'Église et le cri du chrétien, c'est « Viens Saint-Esprit, viens Seigneur, que ton règne vienne au milieu de nous. » Et ça, c'est cette volonté de Dieu. Ne pas comprendre que le prix qu'a payé Jésus, c'est pour réconcilier le ciel avec la terre, c'est et croire et limiter ça à simplement mon petit salut individuel, mon petit confort individuel. Il n'y aura jamais de culture changée ni de réforme sur notre pays. On a besoin de comprendre Éphésiens 1. Et l'appel de Dieu, le salut de Dieu, c'est cette immense réconciliation. Et quand tu vas travailler le lundi matin, tu es un agent de la réconciliation. C'est-à-dire tu réconcilies. Il n'y a pas un côté profane. Profane, ça veut dire en dehors du temple, et un côté sacré. C'est pas ton travail le lundi et qui serait opposé de la mission du dimanche d'être au culte, mais tout est un culte à Dieu. Et il n'y a rien de profane, tout appartient au Seigneur, tout est de lui, tout est par lui. Et dans cette dimension-là, ça c'est la véritable dimension de la célébration. On célèbre Dieu quand on commence à voir qu'il n'y a pas deux mondes, mais il y a un seul monde, c'est le monde de Dieu. Il y a un seul monde, il n'y a pas un monde spirituel, un monde... Mais non, Dieu a tant aimé le monde, le cosmos tout entier. Donc voilà, la volonté de Dieu pour nous, Église, pour nous, chrétiens, c'est d'être des agents de réconciliation pour rentrer dans ce grand mystère de Jésus dont le ministère est et qui nous a donné d'être des agents de réconciliation. Entre le profane, le sacré, le travail et le royaume de Dieu, l'économie, l'éducation et le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à réconcilier, dans notre petite mesure parfois, mais la vocation du peuple de Dieu, elle est immense. Et puis c'est pas fini, il nous a déclaré héritier. Donc nous sommes son héritage à Dieu. Quand il te regarde, il dit j'ai payé, tu m'appartiens. C'est quand même pas rien. Est-ce que tu savais que tu t'appartiens plus? Enfin, je sais pas, parfois c'est bon de le rappeler. On s'appartient plus, les amis. On a peut-être notre petite volonté, tout ça. Souvent, on pense que c'est nous qui avons choisi Dieu. Mais attends, c'est Dieu qui t'a choisi, d'accord? Souvent, on dit dans les... Qui c'est qui veut... Lève la main, celui qui veut rencontrer Jésus. Donc, on a l'impression que c'est nous qui choisissons, c'est nous le centre du monde. Mais c'est lui le centre du monde. Et c'est lui qui a permis que tu répandes. Et c'est lui qu'on peut célébrer. Donc, être héritier. Et nous sommes héritiers. Alors, l'héritage, je rappelle, on fait partie d'un réseau d'églises qui s'appelle le réseau héritage. On se rappelle les héritages. Hein. Nous sommes l'héritage de Dieu. Dieu est notre héritage. Et sa justice, c'est notre héritage, revêtu de justice. Le salut, la vocation, c'est notre héritage. Sa parole, c'est notre héritage. Les enfants sont notre héritage. Un corps glorifié, c'est notre héritage. Et chaque guérison ici-bas, les témoignages qu'on a entendus, c'est une manifestation du royaume de Dieu qui touche la terre. Et Dieu voudrait pas seulement des attouchements, mais il voudrait régner, amener ce règne. Mais il le fait pas sans nous. Ça c'est quand même... Moi, j'aurais préféré quelque part qu'il dise « Seigneur, que ton règne vienne, et puis tu fais rien, et puis tu vois, t'as le règne qui descend. C'est super, waouh, il répond vite, tu vois. » Mais non, Dieu dit « Je veux que tu règnes avec moi, et ce règne, il vient pas sans toi. Aspire à ce règne. » Et c'est fais-le descendre. Et c'est le désir de l'Église qui fait descendre le règne de Dieu. Si le désir de l'Église, c'est d'échapper au monde, il n'y a rien qui se passe dans le monde. Si le désir de l'Église, c'est de voir le règne venir, alors le Saint-Esprit est attiré. Il est attiré par le désir qui est dans ton cœur. Tu attires la Trinité quand tu désires Dieu. Et nous sommes là en tant qu'Église. Pourquoi ces efforts de peinture, de travaux, de mise aux normes et tout ça? Pourquoi ces efforts? Parce qu'on a de désir. Le Seigneur, tu viens tabernacler dans les choses matérielles comme dans les choses spirituelles. Que Dieu renouvelle le désir en nous et le désir de son héritage. Quand un fils ne veut rien et se contente d'être derrière, par exemple, son écran télé ou vidéo toutes les heures de la journée pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, le Père, imaginez le Père, il a dit « Mais je t'ai tout donné, t'as l'héritage, et là, qu'est-ce que tu fais ?» Je me rappelle un de mes fils, un jour, il était devant, justement, devant. Pendant qu'il ne travaillait pas, il avait une période sans travail, devant son ordinateur, tout le temps. Et un jour, le Seigneur lui dit, « Et si tu meurs aujourd'hui, t'auras fait quoi ?» C'était le père, c'est pas moi qui lui ai dit, c'est Dieu. Et donc, il a dit, « Mais c'est vrai. » Et c'était le déclic pour qu'il aille au Honduras. Voilà, c'était le déclic. Il y a un besoin de déclic régulièrement. Dieu nous déclare héritiers. Bénédiction de Dieu par le Saint-Esprit. Il nous a scellés. Donc ça, entendre l'évangile, on voit ici, ils entendent l'évangile, les Éphésiens qui étaient des païens, et puis ils entendent cet évangile, et Dieu dit, ben voilà, scellé du Saint-Esprit. Et le sceau, vous savez, ça parle d'une transaction, ça parle de quelque chose qui est confirmé. Le sceau, ça parle de la propriété. Quand Jésus était mis au tombeau, il y avait un sceau qui était mis, le tombeau, il ne fallait pas y rentrer. C'était romain, donc un sceau. Le sceau, on appartient à Dieu, il y a un sceau sur toi. Il y a un sceau sur chacun de nous. Et on appartient à Dieu. On est sa propriété. Et le sceau, c'est la protection aussi. La protection. Et Dieu a son sceau sur chacun de nous. Si on pouvait voir dans l'invisible, on verrait la marque et le sceau de Dieu sur chacun ici. Ça a été... Et puis, le sceau, c'est aussi l'authenticité. Hein ? Il n'y a pas de contrefaçon. C'est authentique, le sceau. Et il nous a donné un gage, 1,14. Et le gage, c'est ce gage de... du Saint-Esprit, c'est que le gage, c'est le même sens que la bague, l'alliance. Il nous a donné ce gage. Alors, si vous voulez, on a été rachetés, ça s'est fait. Nous sommes en train d'être rachetés parce que pourquoi l'Esprit travaille en nous? C'est actuel le rachat, c'est pas seulement il y a 30 ans, 20 ans, c'est aujourd'hui. Dieu rachète, Dieu, le salut continue à travailler. Et puis nous serons pleinement rachetés, bien sûr, avec ce corps glorifié. Et ça, je trouve c'est merveilleux. Ce christianisme, c'est un honneur à la création quelque part aussi. Dieu n'est pas le Dieu contre la matière. Tout ce qui est matériel, ce serait pourri. Non, non. Dieu dit, je vais restaurer ce cosmos, cette création. Et le corps que tu as, c'est tellement important pour Dieu. C'est pour ça, le mépris de la guérison. Il y a des courants parfois chrétiens qui disent, mais c'est pas important, Dieu guérit plus aujourd'hui. C'est un mépris du corps. Ça vient des Grecs. Les Grecs disaient, si tu veux être spirituel, le corps, tu t'en fous, c'est matériel. Mais Dieu dit, je suis venu dans un corps. Son fils est venu dans un corps. Le corps humain est tellement important pour Dieu que quand on mourra, on en aura un nouveau, renouvelé. C'est important le corps. Et il y en a qui croient honorer Dieu en déshonorant le corps. Et Dieu veut qu'on honore ce corps. Alléluia, t'es un beau temple du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, t'es un beau corps. T'es un beau temple du Saint-Esprit. Amen. Aime ton corps, hein. Alléluia, c'est la marque de Dieu. Nous sommes des gens corporels, nous ne sommes pas des esprits qui planent comme ça. Et Dieu, il chérit ce corps. Et le corps, c'est toi, mais aussi nous tous. Nous sommes le corps de Christ. Mais quelle célébration! Nous sommes une partie de son corps et ensemble, nous formons son corps. L'apôtre Paul, quand il persécutait l'Église, un jour, Dieu il tombe de son cheval et Dieu lui dit, la lumière, mais qui es-tu Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Toucher le corps, c'est toucher Jésus. Et quand tu bénis, quand tu sers le corps à la sono, quand tu sers le corps par le service, par l'encouragement, en visitant quelqu'un, en priant pour lui, tu sers Jésus. Cette vision du corps, le corps, on ne s'en sert pas, on est appelé à le servir. On est appelé à le servir, le corps. Nous sommes dans un monde où on veut se servir, on veut des self-services partout, et on prend là, et on se taille, et on revient. Dieu dit, sers maintenant, et sois fidèle dans le service, vois le corps. Donc voilà, alors qu'est-ce que ça nous enseigne, toutes ces richesses que nous avons dans le Seigneur? Eh bien déjà, ça nous enseigne que les vraies richesses, elles viennent de Dieu. Ce sont des richesses éternelles. Bien sûr qu'il y a des richesses aussi matérielles. Mais disons, ça, sans les richesses de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. En Christ, nous avons les choses que l'or et l'argent ne peuvent pas acheter. Et il nous donne des choses qu'on ne pourra jamais acheter nous-mêmes. Et il nous les donne, les plus précieuses. Et toutes ces richesses, elles viennent par la grâce de Dieu. Pourquoi? Eh bien, le but, on l'a lu une fois, deux fois, trois fois. Le but... C'est que pourquoi est-ce qu'on est adopté? Pour célébrer sa gloire, la gloire de sa grâce. Pourquoi il nous a rachetés? Afin que nous le servions à célébrer la gloire. Pourquoi l'Esprit de Dieu a scellé et nous a donné la garantie de la bénédiction? Pour célébrer sa gloire. Donc on est sauvé du péché, mais on est sauvé pour servir. On est sauvé de, on est sauvé pour. Et en tant qu'Église, il y a une mission de Dieu ici à Guebwiller, dans cette région. On a été sauvé pour. Et ça, c'est quelque chose qui nous... Ouh, quelle responsabilité, mais quelle grâce aussi. Voilà. Notre célébration, elle ne doit pas seulement se nourrir de petites choses, hein, mais elle doit se nourrir de ça, de Éphésiens 1. Elle doit se nourrir de ce que Dieu nous a donné. Ça, c'est la célébration. Hein. La célébration ne dépend pas des circonstances qu'on vit. La célébration dépend de la révélation qu'on a de ce que Dieu nous a donné. Et alors on célèbre. Quoi qu'on ait, quoi qu'il arrive, comme le cœur d'un David, hein, quand il perdait tout, plusieurs reprises, il se met, il tourne vers Dieu et il loue le Seigneur. Dans les psaumes, combien de fois, ça commence par le désespoir et ça finit par « Je me rappelle qui tu es, Seigneur, et je célèbre ta gloire. » Donc il y a un rapport entre la célébration, l'héritage et le règne. Et regardez ça. On prend juste de notre Père, et je termine bientôt. Notre Père qui es aux cieux, ça c'est que ton nom soit sanctifié. Ça c'est quoi? C'est la célébration. D'accord? Notre Père, c'est-à-dire que je suis un fils. D'accord? La célébration, c'est l'identité. Hein? Je suis un fils. Que ton nom soit sanctifié, c'est la louange. Et ensuite, il est dit que ton règne vienne. Voilà. Il y a quelque chose ici. L'adoration, ça a pour but, si vous voulez, la rencontre avec Dieu. Et la rencontre avec Dieu, elle amène l'action. Alors, elle amène déjà l'action de Dieu, parce que quand on loue le climat de célébration, ça attire l'action de Dieu. Voilà, au milieu de nous déjà. Et combien de fois j'ai vécu dans ces cultes ici, dans les tabernacles de louanges, vous savez, où parfois tu es sans ressources, tu n'as pas des réponses à tout ça. Tu célèbres Dieu, et tac, des choses s'éclairent. L'espérance revient, tout ça. Et je suis sûr, j'aurais pu rester chez moi tout seul. Mais non, il y a des choses qui se passent quand on célèbre ensemble qui sont absolument uniques, que Dieu fait quand, au milieu de son corps. Donc la célébration, l'adoration, c'est le but de rencontrer Dieu. Et cette rencontre de Dieu, eh bien, ça pousse à l'action. Et je termine par Apocalypse 3, verset 7. C'est Dieu qui parle aux églises et il parle à l'église de Philadelphie. D'ailleurs, ça veut dire quoi, Philadelphie? Allez-y là. Anne. Amour fraternel. Bon, Philadelphie. Amour fraternel, la mission de l'Église, on est une famille. Donc, amour fraternel. Regardez, à l'Église de Philadelphie, celui qui a la clé de David, louange. Famille, célébration. Qui ouvre et personne ne fermera. Qui ferme et personne n'ouvrira. Dieu veut une église qui célèbre. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes à ouvrir. Et il y a des portes à ouvrir dans cette région, dans cette ville. Il y a des portes à maintenir ouvertes. L'ennemi est toujours là pour vouloir voler, piller les héritages de Dieu, les maisons de Dieu. Mais nous sommes une église Philadelphie, amour fraternel, qui célèbre Dieu parce que Dieu veut ouvrir des portes. Dans nos vies, dans nos familles et autour de nous. Voilà simplement ce que j'avais à partager, la célébration. C'est rester sur ce mot, peut-être encore dimanche prochain, de célébration, pour comprendre la mission que Dieu nous a donnée. Seigneur, merci pour l'immense privilège d'être tes enfants, tes fils, tes filles. L'immense privilège d'être tes co-héritiers. L'immense privilège d'avoir été choisi, appelé. On ne comprend pas tout, Seigneur. Mais ce qu'on sait, c'est que ce choix que tu as fait, c'est parce que tu aimes le monde, tu aimes ce cosmos, tu veux nous donner à ce monde. Seigneur, bénis chacun d'entre nous ici. Continue, Seigneur, à faire de nous un peuple qui célèbre, par tous les dons que nous avons, qui célèbre ton nom. Merci, Seigneur, que ta faveur, que l'Église Philadelphie, la réalité de Philadelphie, on puisse continuer à la vivre ensemble. Chacun connaissant sa place, n'outrepassant pas les limites que tu lui donnes, parce que chacun a des limites ici. Mais on veut, dans ces limites que tu nous donnes, dans la mesure de foi que tu nous as donnée, on veut célébrer et être des adorateurs en tout premier. Célébrer les amis, célébrer la présence de Dieu, célébrer les réussites, célébrer les anniversaires, célébrer les enfants, célébrer, Seigneur, toutes les bontés que tu nous donnes. Merci Seigneur, que ta bénédiction, ta grâce soit sur nous cette semaine et accompagne chacun, que l'onction de l'Esprit soit sur nous. Merci que nous soyons des gens qui adorent et qui célèbrent. Au nom de Jésus.